Music du Monde. Laurence Alois.
Laurie Plisson.
Music du Monde sur RFI.
Bienvenue dans les musiques du monde qui se la jouent les temps modernes en hommage à Charlie Chaplin avec Smile, le nouvel album de la harpiste de jazz Isabelle Olivier qui sera dans la session live d'ici une vingtaine de minutes. Et on ouvre avec le duo d'indie folk tunisienne, enfin de musique contemporaine arabe, avec le duo Yuma, une guitare, une voix, et on peut commencer la découverte de l'album Annette El Kloub. Bonsoir.
برا كان المرة حكيت برا كان عشرت الدار يصير وصار وزاد الثار على ما بينا برا كان الوقت خذيت برا كان ايامي ذباب وراسي شاب وصوتي غاب على ما حكينا برا كان انفاسي حياة برا كان صلاتي قيام وصيامي ثبات وساقي حفاد على ما جرينا برا كان كلامي سكات وتملك على لسان صحابي وزادت صبوات ليامات وكلامي تفزر من اجنابي وعملت كيما الناس تقول الدنيا تدور وعملت كيما الناس تقول الدنيا تدور
الدنيا تدور الدنيا تدور
sur RFI dans les musiques du monde.
Music du monde. La session live. Sur RFI.
Et le titre que vous venez d'écouter s'appelle Déniadour. Il est interprété par le duo Yuma. Yuma, c'est Sabrine Jenani qui était au chant et Rami Zoglami. C'est comme ça qu'on prononce ?
Yes.
Yes. Qui lui aussi était au chant et à la guitare. Alors, c'est extrait d'un nouvel album, le troisième, qui s'appelle Hanet Lekloub. Et qui signifie, Sabrine ?
Réconciliation.
Réconciliation. Il y avait besoin.
Du baume sur le cœur.
Du baume sur le cœur. Pourquoi ? Vous étiez blessé, fâché ?
Un petit peu des deux.
Un petit peu des deux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était après 2018 pour la sortie de l'album Poussière d'étoiles, et vous arrivez maintenant avec Hanet Lekloub, c'est le troisième. Donc entre ces deux disques, qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Plein de choses.
Beaucoup d'aventures, oui. On est, enfin, sur un plan personnel, sur le plan du duo aussi, et de la Tunisie également.
De la Tunisie et du monde, puisqu'il y a eu le confinement, il y a eu un arrêt du projet pendant un certain temps, pour des raisons personnelles et professionnelles, les deux, hein, parce que on avait quelques décisions à prendre sur le plan professionnel qui allaient justement nous permettre de nous épanouir, comme ça a été le cas pour Hanet Lekloub. Comme avait dit une personne, moi je vais relever un commentaire que j'avais lu sur la toile qui disait « C'est beau comment vous allez parler d'une querelle, entre parenthèses, avec de la musique et de la création ». Alors, c'est tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a envie d'aborder. En fait.
Alors, vous évoquiez le confinement. Alors, pour beaucoup de musiciens, évidemment, c'était un manque à gagner parce que beaucoup vivent de représentations, des concerts, des galas, etc. Mais pour d'autres qui avaient déjà quelques revenus ou un peu de moyens de subsistance, c'était une période aussi de réflexion, de mettre à plat, faire un bilan de ce qu'ils avaient déjà fait, de travailler sur de nouveaux projets de manière tranquille, tranquille entre guillemets, parce qu'en période de pandémie, personne ne l'est. Je sais que vous, Sabrine, par exemple, vous êtes peintre, vous êtes plasticienne. Est-ce que vous avez fait avancer d'autres projets qui n'ont rien à voir avec le duo Yuma que vous formez avec Rami ?
Au niveau des arts plastiques, j'ai fait quelques ateliers. Je me suis essayée toute seule à la maison à quelques projets, mais rien de professionnel. Je n'ai jamais fait carrière dans les arts plastiques, même si certaines biographies laissent entendre ça.
Il faut laisser parler la légende. Vous dites la vérité dans cette émission.
C'est un mythe en fait. Moi, en train de faire des arts plastiques, c'est un mythe. Peut-être que c'est un plan de retraite. J'y pense, hein, sérieusement.
Mais vous avez fait des études quand même
J'ai fait les études à l'école des Beaux-Arts de Tunis. Ouais. Et non, j'ai pas fait carrière dans les arts plastiques. J'ai fait, plus tard dans la vie, j'ai fait journaliste culturel. Et puis, j'ai commencé à faire carrière dans la musique. Et puis, j'ai pu quitter cette carrière.
Ce qui m'avait frappé il y a quelques années, quand je dis il y a quelques années, je ne parle pas du 19e siècle, hein, je parle bien du 21e, dans 2014-2015. et j'avais été impressionnée lors des soirées de voir à quel point les DJ étaient pointus en musique électro, on avait de la techno berlinoise, des trucs, je n'imaginais pas une seule seconde. Ça, c'est un peu votre. Vous avez un peu farfouillé dans ce domaine, vous, Rami ?
En fait, j'ai collaboré avec deux DJ de la scène tunisienne, Benjamy et Dawan, que je salue. Mais je n'ai pas fait l'enfeu, en fait. C'est un monde beaucoup plus nocturne que mon duo douillet. Donc,
Un duo douillet.
Voilà.
C'est
donc
mignon.
J'ai vite fait de retrouver mon acoustique. Acoustique.
Alors, je ne sais pas si le titre que vous venez d'interpréter est si douillet que ça. J'ai regardé la vidéo et j'étais surprise par la ville. Alors, j'ai cru reconnaître la Turquie.
Oui, c'est à Istanbul. On reconnaît le Bosphore, on reconnaît un peu le souk. Nous, on dit à la Médina, le souk d'Istanbul. Effectivement, en fait, on a fait un choix complètement au hasard, hein, parce qu'on avait beaucoup de problèmes, on avait eu beaucoup de difficultés à tourner durant le confinement.
En fait, c'était purement technique, c'était pour des raisons sanitaires, et la Turquie était le seul pays qui
acceptait les tournages.
Qui
donnait les autorisations.
C'était pas possible en Tunisie, non plus en France. Du coup, on s'est retrouvés avec l'équipe à Istanbul pour le tournage.
Alors, Déniadour parle de la solitude, parle aussi un peu d'exil, parce que quand on regarde les images, à partir du moment où on voit quelqu'un sur un bateau, on se dit « Ah, il quitte
part.
La famille ».
Il part.
Ouais. Ça parle de départ, en fait.
Ouais.
C'est pas l'exil, ça parle de départ, ça parle de nostalgie de l'autre, de l'amour qu'on a quitté, qu'on a envie de retrouver, mais que finalement, on le retrouve seul. On a envie d'avouer les choses, mais on se l'avoue à demi-mot, ne serait-ce que devant le miroir. peut-être que ça parle un peu d'une expérience personnelle, mais
peut-être.
Mais c'est souvent une tournure que prend les textes qu'on écrit ensemble avec Rami. C'est souvent des tournures qui prennent le chemin que prend une œuvre finalement. Ça veut dire que ça commence, ça part d'une idée personnelle et après ça va devenir l'histoire de l'autre, quoi, l'histoire des autres.
Je vous propose d'écouter un autre titre de cet album. Alors, vous n'allez pas l'interpréter en studio, on va diffuser la version CD pour voir aussi un petit peu le travail de production, parce que vous travaillez avec un duo de producteurs hollandais, enfin néerlandais, enfin des Pays-Bas, quoi. Le titre, ça s'appelle Wahan Kebar.
دنيا من شباك الدار تبان كبيرة سنك لها الفار قلب الشمس وسود الغار كنت صغيرة
Voilà, c'était le titre Wahan Kebar. Qu'est-ce que vous racontez sur cette chanson? Je vous demande de vous exprimer sur ce titre.
Wahan Kebar. Quand on était grand, la chanson parle.
Ah, c'est retour vers le futur.
Voilà, exactement. La chanson parle d'enfance, quand on était grand, en fait.
Et ce sont des enfants qui se posent la question. Et alors le clip, évidemment, ça se tourne encore en Turquie, parce que c'est là où en 48 heures, vous avez fait deux clips,
voilà,
hein, comme des fous, 60 plans en deux jours. Donc vous avez fini fous. Et c'est pour ça qu'on vous récupère dans cette émission, parce qu'on les adore, les fous. Ça évoque, évidemment, il y a un côté un peu nostalgique. Quand on était grand, est-ce que vous êtes la personne que vous aviez toujours rêvé d'être, Sabrine?
En fait, c'est marrant parce que vous avez évoqué, en présentant justement la chanson, ce de quoi parle le texte finalement. Le texte, il parle de l'innocence, de l'enfance et de ces rêves qu'on voit à travers la fenêtre, qui paraissent grands et qui paraissent lointains, mais finalement qui paraissent réalisables et auxquels on aspire toute la vie. Et la moralité, en fait, si on peut parler de moralité dans cette chanson, c'est de... Ne grandissez pas, quoi, parce que c'est un gros piège.
L'idée, c'est de ne pas devenir l'adulte qu'on rêve d'être, mais de plutôt garder l'enfant qu'on est.
Vous avez trouvé un label français qui s'appelle French Flair, et les personnes qui ont travaillé avec vous sont des producteurs-réalisateurs hollandais. De choisir un label français, c'était, j'allais pas dire pas forcément une évidence, peut-être une histoire de rencontre, mais en tout cas, trouver un label tunisien, ça doit être assez compliqué.
La musique
en Tunisie.
C'est quasiment inexistant. Voilà. On n'arrive pas encore à identifier, ou c'est quasi inexistant d'avoir un label ou production en Tunisie. Il n'y en a pas, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi le label français pour des raisons stratégiques ou des raisons...
C'est une opportunité.
C'est une possibilité, tout simplement, oui, qui ne s'offre pas à nous sur le territoire tunisien. Alors, ça nous permet aujourd'hui de faire des concerts, d'avoir une sorte de structure structure qui est encore inexistante en Tunisie. D'avoir accès aux droits d'auteur, d'avoir accès aux droits voisins, d'avoir accès à une forme de structure qui est inexistante en Tunisie.
Rami, quels sont les premiers sons qui vous ont donné envie d'être musicien ?
Les tout premiers, en fait, c'est l'époque grunge, c'est l'époque...
Nirvana.
C'est Nirvana, c'est Pearl Jam, c'est... Bon, ensuite, un petit peu plus speed, plus violent dans le rock, mais ça s'est adouci très, très vite.
Il est fan de Slipknot.
Voilà.
Je le suis aussi.
Donc ça, c'était les tout premiers sons. Bon, après, c'est le rock, c'est le indie rock, le folk rock.
Et vous faites de l'indie folk, en
voilà,
fait.
Voilà, c'est de l'indie folk, c'est ça.
On a fini par trouver une catégorie, parce qu'à un moment donné, on nous classait aussi comme musique du monde, sauf qu'il existe des catégories, des sous-catégories dans la musique du monde, et aujourd'hui, on parle de musique arabe contemporaine, enfin, et on arrive à avoir des sous-catégories comme l'indie folk arabe.
Et je me demandais si, de fait, il y avait une scène tunisienne, parce que s'il n'y a pas vraiment de structure, les artistes tunisiens que l'on connaît en général ont un management à l'étranger ou une maison de disques. Le dernier que j'ai eu, mais il vit en Belgique, s'appelle Johar.
Ouais. Johar.
Il a une voix basse terrible.
Le Nick Cave du monde arabe.
Oui.
Paradoxalement, sans aucune structure, il y a une scène énorme, une scène en effervescence. Il y a des projets qui se créent tous les jours. Il y a de très très bons musiciens. Tous font comme ils le peuvent, mais ne font pas long feu, malheureusement, parce que c'est un métier à haut risque. C'est un métier où on peut le pratiquer peut-être 3-4 ans, mais le temps d'épuiser ses économies et de trouver un vrai travail, quoi.
Je vous propose de vous mettre en place pour le titre Sucre. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter C'est quoi c'est une petite balade.
C'est une balade.
Un truc léger.
C'est une grande balade.
Le titre est en français, parce que même le mot est plus... En tunisien dialectal, c'est sokr. Voilà, c'est un petit peu...
On se le prend dans la tête. Voilà. On n'est que sucre.
Sucre, c'est un petit peu plus...
On arrive vers le Brésil.
Exactement.
Je sais pas pourquoi. C'est fou. Je vous laisse rejoindre vos tabourets.
Allons-y.
Merci à Sabrine Jenani et à Rami Zoglami, donc du duo Yuma, d'être passé dans cette émission. Je vous rappelle que l'album s'appelle...
Hanet l'Aqloub.
Yes. Merci.
C'était le duo Yuma, les premiers invités de la session live. Et on prend un petit peu d'avance en annonçant le concert parisien du 17 septembre au Café de la Danse pour présenter cet album. Et là, Yuma s'efface pour laisser le grand studio à la harpiste Isabelle Olivier.
Musique du monde sur RFI.
Smile, c'est le sourire d'Isabelle Olivier lorsqu'elle s'arrête sur les dernières images du film de Charlie Chaplin, Les Temps Modernes. L'harpiste de jazz qui promène sa musique entre Guyancourt et Chicago est venue en trio pour évoquer ses 30 ans de carrière en piste. Isabelle Olivier sur RFI dans les musiques du monde.
Musique du monde. La session live. Sur RFI.
Et on vient d'écouter le titre Light, interprété par Isabelle Olivier à la harpe, accompagnée par Tom-Olivier Boeuf, qui était cette fois-ci à l'accordéon. On vous retrouvera au piano un petit peu plus tard. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Laurence.
Bonsoir Tom.
Bonsoir.
Ça va?
Ça va.
L'acoustique, c'était bon?
Impeccable.
Bah oui, on a Benoît Le Tyran et Mathias Teller au son. En général, ça se passe plutôt pas mal. Puis je veux dire aussi bonjour et bonsoir à David Péchat, qu'on vous retrouvera à la batterie tout à l'heure. Je sais que vous ne parlez pas beaucoup, pas très fort, mais...
Je vais essayer.
Ça va être un baptême. Voilà, vous êtes venu en trio, Isabelle Olivier, quand vous présentez ce nouvel album, qui est le 11e album, vous êtes combien sur scène en général?
Ça va de 1 à l'infini.
L'infini, ça va être assez pratique
pour
produire ce type de spectacle.
Nous
ce 11e album, Smile, couronne aussi 30 ans de carrière. Est-ce que 30 ans, c'était pas tant?
Oui. En fait, je veux raconter...
Isabelle.
Non, Laurence, je veux raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a 30 ans, au premier concert du groupe Océan à l'époque, avec les frères Moutin et Sylvain Boeuf. Il y a Jean-Louis Chotan, saxophoniste de jazz, qui m'avait dit, tu sais, jazzman, c'est les 30 premières années qui sont dures.
Alors ?
Alors, maintenant, ça va être facile.
Maintenant, ça va être cool. Smile, ça veut dire sourire. C'est aussi un clin d'œil à Charlie Chaplin sur les temps modernes, un film qui est sorti en 1936. C'est la scène finale qui est très belle sur Smile, où il s'en va avec
son amoureuse.
Et lui dit que malgré tout, dans la vie...
Il faut sourire.
Il faut sourire. Racontez-moi la genèse de ce projet. Ça s'est fait entre Paris et les États-Unis. Il y a eu des résidences, il y a eu des appels à candidature.
Exactement. Donc en fait, déjà, j'ai regardé les temps modernes pendant le premier confinement, en mars. Et effectivement, ça a eu une résonance immédiate sur le monde contemporain d'isolement et du monde moderne qui fait que le plus on est connecté, le moins on est finalement en contact. Et d'autre part, effectivement, ce thème de Smile qui est une véritable splendeur dont je ne savais pas que c'était Charlie Chaplin qui l'avait composé. Et je me suis dit, bah, ça va être le point de départ. J'ai la chance depuis maintenant 2 ans d'être en résidence au Pianoforte Foundation, qui est aussi un studio de musique, donc d'enregistrement. J'y fais beaucoup de résidences artistiques tout au long de l'année avec cette capacité de faire des Facebook Live. Donc ça permet de roder des morceaux et de voir les réactions immédiates sur les réseaux sociaux des gens qui m'envoient des MP, comme on dit. Et d'autre côté, en France, on a fait une résidence avec les musiciens de la compagnie Métamorphose et aussi un circassien, Sylvain Julien, sur le thème du sourire. Et
un circassien, c'est quelqu'un qui vient du cirque.
Oui, et qui en plus jongle avec des cerceaux. Donc, autant vous dire que c'est un peu un extraterrestre.
D'accord. Et ces gens-là viennent sur scène avec vous,
voilà.
Lors des concerts.
Voilà.
Ça va? Vous arrivez à vous concentrer quand les gens s'agitent autour de vous?
Ah, mais c'est extraordinaire comme rencontre.
Qu'est-ce qui a fait que votre carrière vous a porté jusqu'à Chicago? On aime les harpistes de jazz?
Non, c'est qu'en fait, j'avais envie d'écrire un opéra jazz sur le Baron Perché d'Italo Calvino. Et donc, j'y suis partie en 2012 et ça m'a pris 4 ans. Et en fait, je suis restée à Chicago, j'ai eu la carte verte. Et donc, maintenant, j'ai un pied en France, un pied aux États-Unis.
Est-ce que vous avez déjà lu le Baron Perché d'Italo Calvino?
Tu l'as lu, toi?
Je Tom, lu, David.
Je l'avais lu à l'époque, quand j'étais encore à l'école. Mais c'est vrai que c'est plus très frais dans ma tête.
Ça a été mon livre de chevet pendant toute ma vie.
C'est un aristocrate italien qui en a marre de la bouffe de sa sœur et de la société en général, qui grimpe sur un arbre qui ne va jamais redescendre de toute sa vie. Il barone rampante. Je veux vous proposer d'écouter un extrait de ce nouvel album. Alors, je ne vous cache pas ma surprise quand je suis tombée sur Hope, qui démarre l'album. Je croyais que c'était vous qui chantiez. Je ne savais pas qu'Isabelle Olivier savait aussi faire ça. Mais c'est pas vous, en fait.
Non,
Hope,
c'est pas moi.
Cet extrait de Smile.
Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. Sweetest and the gayest heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity. And sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest and the gayest heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I've heard it in the chillest land. Strangest sea, yet never in extremity. It asked a craw of me.
c'est un titre que l'on peut retrouver sur le tout nouvel album d'Isabelle Olivier qui s'appelle Smile. Le titre Hope est chanté par Christiana Römer. Alors c'est une artiste germano-américaine, chanteuse, avec qui vous avez déjà travaillé sur Le Baron Perché.
Exactement, et en fait elle habite New York. Comme moi je travaille régulièrement avec Raza Bassi, du coup je passe régulièrement à New York.
Raza Bassi,
guitariste.
D'accord.
Et du coup en fait depuis 2018 on a commencé un projet ensemble de co-leader. Et donc, à chaque fois que je passe à New York, on déjeune, on dîne, on s'apprécie beaucoup. Et du coup, quand je lui ai dit, vraiment, j'aimerais que tu sois l'invitée chanteuse sur Hope, elle a dit oui tout de suite. Et vraiment, je la remercie tellement.
Alors, autour de cette table, il y a David Pécha qui va faire de la batterie dans quelques instants. Et Tom-Olivier Boeuf, qui est à la fois pianiste et accordéoniste. C'est lui qui vous a accompagné sur le premier titre. C'est une table, j'allais dire, outre-Atlantique, hein, ici, parce que tout le monde a une carrière en France. Et puis, il y a aussi des études aux États-Unis. On a vu avec vous, Isabelle, que Chicago était une ville mère en ce qui vous concerne. Vous, Tom, j'ai vu que vous aviez eu une bourse et vous étiez parti à Boston, au Berklee College of Music. Vous avez véritablement suivi des études de jazz et de composition de musique de film.
Exactement.
Non, parce que des fois, les gens mettent ça dans leur bio, ils se sont inscrits, mais ils ne sont jamais allés en cours. Donc, c'est sérieux.
Ah ouais, j'y étais tout à fait pendant 2 ans. Et puis, en fait, ce qui était amusant, c'est que j'allais beaucoup à ce club de jazz qui s'appelle le Wally's. Et en fait, j'y allais quasi tous les jours, toujours à faire des sessions. Et à côté, j'essayais de caler tant bien que mal un peu la musique de film, ce qui fait que j'étais toujours un peu tiraillé.
Vous connaissez l'histoire du Wally's Bar, enfin du Wally's Café, pardon, à Boston. En fait, c'est un club qui a été créé en 1947 par un
Wally's,
mec, ouais. C'est son surnom, qui venait des Barbades. C'est le premier club de jazz en Nouvelle-Angleterre tenu par un Afro-Américain.
Oui, tout à fait.
Donc il y a toute
une
histoire.
Et là, c'est son petit-fils Paul là, qui était le gérant, donc je le voyais tout le temps. Et...
Isabelle Olivier, David Pécha n'est pas le batteur qui est sur votre album, sauf erreur.
Non, parce qu'en fait, on l'a enregistré à Chicago. Et en fait, c'était l'époque où les Français étaient interdits aux États-Unis. Mais David avait enregistré justement l'album avec Reza Bassi, parce que Reza avait pu venir en France, et que du coup là c'est Ernie Adams qui est un batteur extraordinaire de Chicago, parce que effectivement le deal de départ c'était d'enregistrer au Pianoforte Foundation.
David Pécha, vous nous racontez un peu votre parcours pour arriver jusqu'à la batterie. Qui vous a mis cet instrument entre les mains?
Alors moi, j'ai commencé par la percussion africaine quand j'étais tout petit en Picardie.
Djembé.
J'avais un maître africain qui s'appelait Ibou, mais enfin il s'appelle Ibrahima, mais
Ibou.
Ibou, on l'appelait Ibou, et j'allais en forêt dans ma petite ville natale et je jouais. H24 du djembé, et après je me suis dirigé vers la batterie rock évidemment au début, et après jazz. J'ai suivi des cours au début dans le conservatoire de ma ville, et après j'ai fait le CNSM de Paris, le conservatoire national. Donc c'est un périmètre plus restreint que Isabelle et Tom, mais c'était bien quand même, et
donc,
ça m'a amené ici. Quoi.
Musique africaine, rock et le jazz,
et le
ou les musiques.
Ouais, à
plus
partir de mon adolescence. Commencer à me rapprocher grâce à des artistes comme Avishai Cohen qui permettent vraiment de faire un pont entre de la musique plus populaire et le jazz. Et en plus, j'aimais beaucoup aussi la musique un peu d'influence yiddish, klezmer, etc. Donc ma mère, elle m'a un peu fait écouter Avishai Cohen. Ça a été une porte d'entrée. Une fois que j'ai goûté au jazz, j'ai arrêté le rock. Non, mais avec tout le respect que j'ai pour le rock. Et d'ailleurs, ça a été une très bonne école. Mais ouais, le jazz, c'est une passion.
Alors si on va du côté d'Isabelle Olivier, si on lui demande ses influences, on va beaucoup rigoler. On va dérouler le tapis rouge. C'est carrément kilométrique. Allons-y.
Déjà, si je dois à Duchesse des Aristochats de jouer de la harpe.
Les Aristochats,
exactement.
Duchesse, d'accord.
Et sinon, sur le plan musical, je pense qu'effectivement, on parlait de Gil Evans tout à l'heure, ça a été une de mes influences vraiment majeures sur le jazz. Peter Erskine, avec qui j'ai enregistré, et vraiment, c'est un musicien qui m'a beaucoup apporté sur une vision, en fait, très large de la musique. Et que quand il fait tchouk, tchouk, c'est totalement magique. Et moi, j'étais tellement scotchée qu'au début où je l'ai rencontré, j'arrivais même pas à jouer. Je savais plus que c'était qu'un do, un ré sur ma harpe. J'étais vraiment totalement en fascination totale. Et puis, effectivement, tous ces jeunes musiciens qui apportent une vision de la musique telle que moi, j'ai quelque part bénéficié, avec une ouverture totale sur tous les styles. Donc, j'ai eu la chance de jouer avec toutes les musiques du monde. Et le monde, quelque part, vous tend les bras quand vous avez cet esprit ouvert.
Vous parlez de liberté, tout à l'heure aussi de droit à la différence, qui revient un peu à parler du Baron Perché.
Bah, tout à fait, mais c'est vrai que c'est un livre majeur de ma vie. Je dois beaucoup à Italo Calvino. C'est vraiment un visionnaire de l'époque contemporaine.
Vous allez interpréter, on va faire un mini-concert, deux titres d'affilée, sur RFI du jamais vu. Vous allez interpréter You Are Too Precious, c'est une reprise de James Blake et Cuban Smile. Présentez ces deux titres.
Alors déjà, James Blake, moi j'ai eu la chance, grâce à mon plus jeune fils, d'avoir une place pour aller voir James Blake. Et donc lui, c'est une histoire très drôle, c'est qu'en fait, par son lycée, il était obligé d'aller voir du Shakespeare. Il avait pris une place pour James Blake. Du coup, il a dû me donner sa place pour James Blake. Il y allait avec un pote et je suis allée avec son pote. Et ça a été une révélation de voir James Blake sur scène. Je ne le connaissais pas du tout, c'était en 2012. Et effectivement, cet homme, ce chanteur, ce musicien... Pour moi, une démarche extrêmement particulière. Et quand j'ai réfléchi sur pourquoi j'étais là 30 ans après, je me suis dit que le public, c'était quelque chose qui m'avait permis de durer toutes ces années. Parce qu'on va dire que le monde professionnel jazz, quand il a vu arriver une femme harpiste, n'était pas hyper accueillant, on peut le dire. Alors qu'effectivement, quelque part, le public a toujours eu cette espèce d'ouverture de venir à mes concerts. Et on le voit aujourd'hui.
Travailler avec de très jeunes musiciens.
Oui,
ils
n'ont
pas 30
nouvelle...
ans.
Non, mais en même temps, je veux dire, je les ai vus il y a 10
Nous
ans
non plus.
Jouer ensemble. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose de totalement naturel. Ils jouent à la fois du Bach, à la fois de la musique contemporaine, du rock, du jazz. Il n'y a pas de limite dans leur musique et c'est ça qui me plaît. Et c'est vrai que je trouve la même chose chez Peter Erskine. Je trouve la même chose chez Christian Romer. Et tous les collaborateurs, finalement, c'est un peu cet esprit-là.
Cuban Smile, c'est votre côté voyageuse.
Oui, et c'est surtout en fait sur le thème du sourire, j'avais l'image de ces femmes cubaines qui n'ont pas de dents et qui sourient de toutes les dents qu'elles n'ont pas. Et c'est un morceau que j'ai dédié à Chris, hein, qui est une amie très fidèle. Elle a écrit des paroles sur ça, mais on a fait avant ça la version instrumentale qu'on va vous jouer aujourd'hui.
Isabelle Olivier, merci d'être passée dans cette émission. Je vais vous laisser rejoindre vos musiciens. David Pécha qui sera à la batterie, Tom-Olivier Boeuf cette fois-ci au piano. Isabelle Olivier sur RFI dans la session live.
Isabelle Olivier dans la session live. Le trio s'apprête à jouer Cuban Smile. Et c'est sur le sourire cubain que se termine cette session live avec Isabelle Olivier, Benoît Le Tyran, Mathias Taylor au son, Jérémy Besset à la réalisation. À bientôt, merci. Oui, enfin, j'ai encore le temps de vous faire écouter un titre de l'artiste malienne Rokia Kone avec le réalisateur irlandais Jack Knife Lee. Une Amazone, un rocker. Salut.
Bita tolomae bita nyari Oh, yeah.